Il est 11h30, Infomag avec Lionel Sabot.
Un premier décès sur les routes de Nouvelle-Calédonie en 2026. Un homme de 53 ans est mort hier soir dans un accident sur la RT1 à Koumac. À la deuxième journée de la visite sur le territoire de 9 députés Ensemble pour la République, les parlementaires ont débuté leur journée par une rencontre avec les acteurs économiques. La première audience de Nicolas Maduro devant la justice américaine, sa prochaine audience dans un peu plus de 2 mois. Dans les rues de Caracas, des milliers de personnes manifestent pour réclamer la libération du dictateur. Le budget au menu du premier conseil des ministres de l'année 2026. Bercy annonce la tenue d'une réunion avec les représentants des groupes parlementaires hors Rassemblement National et la France Insoumise. Et puis le sport et le tennis avec le BNC Tennis Open 2026. Première sensation hier avec l'élimination dès le premier tour de Pierre-Hugues Herbert, tête de série numéro 4. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer ces titres, ce rendez-vous au premier jour de 2026, nous replongeons sur RB dans les rétrospectives de l'année 2025. Que faut-il retenir de l'année écoulée? Quels ont été les faits marquants en Calédonie, en métropole, dans le monde, sur la planète sport? Retour sur l'année 2025 juste après ce journal. La première rétrospective de l'année sera consacrée à la Nouvelle-Calédonie, une année post-émeute sur laquelle reviendra Nicolas Legrand. Rendez-vous donc juste après ce journal. Un premier décès sur les routes calédoniennes en 2026. Un homme de 53 ans est donc mort hier soir peu avant 22h à Koumac sur la RT1 vers la sortie nord du village près de la tribu de Pagou après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans un poteau électrique. Le conducteur est décédé sur place malgré l'intervention des secours. Le passager âgé de 51 ans a été blessé et évacué au centre hospitalier nord à Koné. Ses jours ne seraient pas en danger selon les premiers éléments de l'enquête. Les deux occupants ne portaient pas leur ceinture de sécurité au moment de l'accident. La deuxième journée de la visite sur le territoire de 9 députés Ensemble pour la République. Les parlementaires ont débuté leur journée par une rencontre avec les acteurs économiques. Ils se sont entretenus ensuite avec les responsables du Medipôle et ont visité l'unité médico-judiciaire de proximité dédiée notamment aux victimes des violences conjugales. Cet après-midi, ils se rendront à Dimbéa, notamment à Kenouine, pour une séquence consacrée à la reconstruction post-émeute et termineront leur journée par une série de rendez-vous sur la commune du Mont-d'Or. Hier, la première journée de cette visite a essentiellement été marquée par des rencontres institutionnelles. Après un dépôt de gerbes au pied de la Croix de Lorraine et une visite au Sénat coutumier, les députés, parmi lesquels figurent 4 anciens ministres, ont déjeuné avec Sonia Bekes, la présidente de la province sud. Et ils ont ensuite rencontré les membres de l'association Un cœur, une voix. Hier après-midi, ils ont pu s'entretenir avec les groupes politiques au Congrès, à l'exception de l'UC FLNKS, ce que regrette la députée des Yvelines, Marie Lebec. Car l'un des buts de cette mission est d'entendre les attentes des groupes politiques sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival.
On a donc rencontré 5 forces politiques puisque l'UC FLNKS n'a pas répondu à l'invitation qui lui était faite de venir s'exprimer devant des représentants de l'Assemblée nationale. Or, ça nous paraît être un sujet majeur puisque l'Assemblée est amenée régulièrement à délibérer sur l'avenir institutionnel bien sûr, mais aussi économique, politique de la Nouvelle-Calédonie. On a d'autres séquences au cours de ce déplacement, mais effectivement aujourd'hui je pense que nos échanges ont démontré toute l'importance et les attentes à la fois très fortes de la rencontre du 16 janvier et également, je pense, l'envie de tous ceux que nous avons pu écouter aujourd'hui de voir mettre en œuvre cet accord de Bougival signé initialement par l'ensemble des forces politiques de Calédonie et beaucoup ont regretté, je pense, le départ de l'UC FLNKS de cet accord qui permettait d'avancer, de sortir de l'ornière. Et aujourd'hui, je pense que la demande, exprimée parfois différemment, c'est vrai, mais la demande de l'ensemble des forces politiques qu'on a pu voir, c'était la mise en œuvre de cet accord et donc c'est aussi le message qu'on pourra de notre côté porter au gouvernement à notre retour.
La volonté des membres de cette mission, c'est de s'appuyer sur l'accord de Bougival, a expliqué de son côté le député Guillaume Casbarian, ancien ministre du Logement puis de la Fonction publique.
Nous essayons de trouver des points d'atterrissage afin de débloquer la situation, offrir de la stabilité politique à la Nouvelle-Calédonie et relancer un cycle de croissance dont le pays a vraiment besoin. Nous sommes très attachés au respect d'un accord qui a été trouvé à travers Bougival, sur laquelle la quasi-totalité des formations ont en réalité signé à l'époque. Et donc il faut avancer sur cette base-là, et donc on ne va pas ressasser indéfiniment des questions qui ont été tranchées et sur lesquelles un accord avait été obtenu. En tout cas, nous entendons qu'il faille avancer sur cette base-là.
Les députés Ensemble pour la République ont abordé un autre sujet avec les groupes politiques calédoniens, c'est la question du gel du corps électoral.
Il y a bientôt des élections provinciales qui arrivent. Il nous paraît aujourd'hui difficile d'expliquer à des exclus de la République qu'ils ont un passeport français, qu'ils sont nés sur le territoire, qu'ils ont passé des décennies, mais que pour autant ils ne peuvent pas s'exprimer à l'occasion de ces élections. En tant que député de la République, attaché à la démocratie, attaché au respect du droit de vote, il nous semble inconcevable d'imaginer que des personne soit exclu du vote à l'occasion d'élections aussi importantes. Nous sommes donc attachés à porter cette voix-là de tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie, y compris ceux qui jusqu'à présent ont été des exclus de la République et qui ne doivent plus l'être et que leur voix compte réellement.
Des propos recueillis hier soir par Kéline Daboiscouf.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Alors que le Parlement doit poursuivre son travail législatif sur la Nouvelle-Calédonie, trouvez-vous utile la visite de 9 députés Ensemble pour la République sur le territoire? Si vous trouvez cette visite utile, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils sont entrés dans l'année 2026 avec optimisme. 39% disent que ce n'est pas le cas. Dans quelques jours, la France et le Vanuatu devraient reprendre leur discussion à propos de Matthew et Hunter, ces deux îlots situés un peu plus de 300 km à l'est de la Nouvelle-Calédonie, donnent lieu à des discussions récurrentes depuis des années. Officiellement, Matthew et Hunter sont rattachés à la France, mais cette appartenance est régulièrement contestée par le Vanuatu depuis son indépendance en 1980. Mais les deux îlots sont pour l'instant bien français, explique Michel Lardy. Il est géophysicien, ancien ingénieur de recherche à l'IRD, qui connaît très bien ces îlots pour y avoir mené des travaux scientifiques.
On trouve des cartes anciennes, américaines, néo-zélandaises, australiennes, comme quoi ces deux îlots étaient rattachés à la Calédonie à l'époque. Et sur les instructions nautiques, c'est plutôt avec les îles Loyauté qu'on trouvait Matthew et Hunter. Alors le Vanuatu revendique parce que les nouvelles Hébrides, avant Vanuatu, était un condominium. L'Institut géographique national français avait édité des cartes.
C'était un condominium franco-britannique.
Franco-britannique, dans lesquels Matthew et Hunter apparaissaient comme étant sur les cartes des Nouvelles Hébrides. Alors, jusque dans les années 60-66, à peu près. Et à partir de 69, il y a eu des discussions entre les Anglais et les Français, et qui ont été bien d'accord pour rattacher Matthew et Hunter définitivement, entre guillemets, à la France.
Matthew et Hunter représentent évidemment un enjeu important en termes de ressources marines, puisqu'ils représentent 350 000 km² de zone économique exclusive. Si Hunter est un îlot qui n'a pas évolué, Matthew modifie régulièrement sa surface, car c'est un volcan toujours en activité, nous a rappelé Michel Lardy.
Oui, il est toujours en activité. Il y a deux parties dans l'édifice de Matthew, un vieil édifice et un nouveau qui a disparu, qui est revenu, et actuellement l'île est à peu près 1 km², hein,
c'est tout petit.
C'est des sommets de volcan avec des racines qui prennent à 1600 mètres à peu près de profondeur, quoi. Au niveau géologique, si vous voulez, on est sûr maintenant, il y a une grosse éruption de Matthew. On a la carte du Mont d'Urville et la carte d'Enam, donc 1853-1829, c'est ce qui nous permet de dire que à peu près les deux tiers de l'île ont disparu. Donc entre 1840-42, où il y a un témoignage d'un bateau de commerce qui est passé, et 1853, la carte de Matthew. Voilà. La dernière éruption, c'est autour de 1945. Elle a été découverte simplement en 1949 par un bateau qui passait par hasard dans le coin. Il avait les instructions nautiques et ça ressemblait pas du tout aux instructions nautiques.
Donc ça veut dire que c'est des îlots qui, dont la configuration bouge?
Oui, oui.
Michel Lardy, géophysicien, ancien ingénieur de recherche à l'IRD, était donc notre invité ce matin. Entretien retrouvé en intégralité sur rrb.nc. Une attaque de requins lors d'une plongée sous-marine, cela s'est produit il y a 3 jours. Heureusement, le pronostic vital de l'homme n'était pas engagé, mais cet accident rappelle que certains comportements en mer peuvent être risqués. Il y a des règles de sécurité à respecter lorsque l'on pratique un sport nautique. Nous faisons le point avec vous, Charlotte Coulson.
Il fait beau, il fait chaud, les vacances battent leur plein. C'est la saison parfaite pour plonger et découvrir la flore et la faune marine. Certains nageurs trouvent leur bonheur dans les zones de baignade protégées, mais d'autres Calédoniens plus téméraires préfèrent s'aventurer dans des eaux plus profondes. C'est l'occasion de voir plus de poissons, des raies et pourquoi pas des requins. Les plongeurs ont l'habitude de voir des pointes noires, des pointes blanches, des requins léopards, alors que l'observation de grands requins reste rare. Une attaque par un squale pourrait donc être la conséquence de comportements à risque, selon Pierre Crubillet, gérant du centre de plongée Blue Caledonia Diving.
Alors les rencontres avec des grands requins en plongée sous-marine, donc on va parler principalement des tigres et des bulldogs, on a les grands marteaux également, ces rencontres en plongée bouteille sont extrêmement rares. Moi, à titre personnel, en 17 ans de plongée en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu un seul tigre et des bulldogs, j'en ai vu 3. Maintenant, il existe des techniques pour attirer les requins, pour les faire venir. Ces techniques, il y en a certaines qui sont interdites, donc notamment le nourrissage des requins, le shark feeding. Il y a d'autres techniques qui ne sont pas interdites, donc qui sont autorisées, qui permettent d'attirer les requins en faisant de la stimulation sensorielle avec des outils très simples. Et voilà, le problème de ces pratiques d'attirer les requins, alors ça marche. Le problème de ces techniques, c'est que ça attire les requins, mais ça les excite. Ça va changer leur comportement et ça peut induire des comportements agressifs. Attaque en immersion d'un requin, d'un plongeur, s'il n'y a pas de stimulation, c'est quasiment impossible.
Pour l'instant, rien ne dit que l'attaque de ce week-end ait été provoquée par une stimulation de ce genre, mais la victime serait le moniteur de plongée, a priori mordu par un requin bulldog au large de Bouraille. Auparavant, en Nouvelle-Calédonie, une gérante de structure de plongée s'était déjà fait mordre. Ce sont donc les 2 seules attaques recensées lors d'une plongée sous-marine dans les eaux calédoniennes. Et pourtant, elles contribuent à alimenter une peur de la pratique et des requins injustifiés, selon Pierre Crubillet.
J'invite tous les plongeurs, tous les potentiels clients de centres de plongée, de ne pas cautionner ces pratiques. C'est-à-dire, on ne va pas à Fidji faire de la plongée shark feeding avec les tigres. Et en Calédonie, si on voit ce type de comportement, et ben on change de structure. Ou on marque au moins son désaccord. Elle porte le discrédit sur toute l'activité. Je prends l'exemple du centre de plongée de Bouraille. C'est pas lui qui a été victime de l'accident, en l'occurrence. Mais par contre, il en est la victime, puisqu'il a déjà des clients qui ont annulé leur plongée. Parce que, accident, peur, c'est arrivé au même endroit qu'il y a quelques années. Et donc, il y a un préjudice aussi économique pour les autres centres de plongée, dont je fais partie. Mais si on enlève les comportements qui provoquent les attaques, il n'y a pas d'attaque en plongée.
Et si vous observez de grands requins, bulldogs, tigres ou marteaux lors de vos sorties en mer, vous pouvez en informer le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie, le COSNC, en composant le 16.
Il fait beau, il fait chaud donc, et pourquoi ne pas aller dans l'eau, mais une autre eau, celle des piscines, puisque les plages sont prises d'assaut depuis le début des vacances estivales. Les piscines municipales sont ouvertes. Illustration avec vous, Aliana Colombo, vous revenez du centre aquatique de Nouméa à Magenta.
Et oui, des cris de joie d'enfants heureux de se baigner dans une eau indiquée à 28 degrés. Pas de doute, nous sommes bien à la piscine en période de forte chaleur. Les Calédoniens défilent en famille et entre amis pour profiter au maximum de cette journée sous un soleil généreux. Et certains viennent parfois de loin pour profiter de ce moment reposant.
On vient quand même du Mambou, donc on n'a pas de piscine municipale, donc on se déplace jusqu'ici pour pouvoir profiter des jeux pour les enfants.
Je vais faire des jeux avec ma petite cousine Eve. Elle est dans la poussette là-bas et Tonton Yugi et Tati Mandy et maman et moi. Ensuite, moi, je vais faire des plans.
On habite un peu loin de celle-là, mais on est venu pour profiter avec la famille et des amis. Et là, on va s'amuser avec le petit frère et un ami que j'ai ramené pour aller se baigner.
Donc là, vous descendez quand même de Koné pour profiter de la piscine?
Ouais, elle passe les vacances chez parrain, donc comme ça, on profite de venir. Ouais.
Je voulais aller à la piscine de Puccio, mais sauf que c'était fermé, donc du coup, on est venu ici. Et là, on s'amuse beaucoup avec tout le monde, quoi. Et aussi, je suis très contente d'être là.
Demain, j'ai mes petits bourraillés et on va venir à la piscine de Magenta. Et ils adorent le toboggan et c'est vraiment un réel plaisir de venir ici. Oui, c'est un bon moment de détente, de joie et de bonne humeur.
Marie Ruelle est maître nageur à la piscine de Magenta pour la saison estivale. Elle vient en renfort durant cette période de forte affluence où le centre aquatique de Nouméa peut accueillir plus de 3000 nageurs par semaine en saison chaude.
Il y a beaucoup de monde et les gens viennent se baigner. Les heures d'affluence, je dirais que c'est toujours plus entre midi et 13h30 pour le bassin de 25. Après, le bassin ludique, c'est vrai que bon, comme c'est les grandes vacances, il y a un peu du monde tout le temps, quoi. Donc là-dessus, c'est assez animé.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants, ça court un peu partout.
Oui, il faut discipliner, mais dans l'ensemble, ça va. On dit une fois, deux fois, mais ils sont quand même assez à l'écoute. Donc ça va, les enfants sont quand même assez bien éduqués. Donc c'est des fois plus les parents qui manque un peu de sérieux pour la surveillance de leurs enfants.
Que ce soit dans les piscines municipales de Nouméa ou au centre aquatique régional de Dumbéa, les activités ne manquent pas toute l'année pour les petits comme pour les grands. Les horaires et les informations pratiques sont à retrouver sur les sites internet des communes concernées.
Et pendant les vacances, la FOL, la Fédération des œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie, organise des camps d'été pour les jeunes. L'objectif, leur faire vivre une expérience riche entre découverte, autonomie, activités nautiques, vie en collectivité et surtout de nombreux souvenirs. À l'école Frédéric Surlot, Laetitia Sigut-Marie Martin, directrice du centre, nous parle des activités.
Nous accueillons sur ce centre 56 enfants, dont une dizaine d'enfants en situation de handicap. Les activités sont très variées, à savoir que le thème du centre, c'est sciences et nature, les petits explorateurs. Donc nous avons des petits explorateurs, des petits génies des sciences et de la nature. Des activités sportives, des activités de découverte, artistiques, culturelles et tout autour du thème du centre, c'est-à-dire la science et la nature. Pour les semaines suivantes, les inscriptions sont ouvertes. Alors, il y a un site internet de l'AFOL, il y a une adresse mail, tout est indiqué sur le site de l'AFOL. On a une page Facebook également. Sinon, on peut appeler au 27 21 40, voilà, s'inscrire dans les nouveaux locaux Cariveo, qui veut dire sous les étoiles, en langue Jobéa Caponé.
Et ce centre aéré permet aux enfants de vivre de vrais temps forts, sport, immersion, nature, cohésion, d'équipe et découverte. Écoutez leur réaction.
On a joué tranquillement et après il y a eu le regroupement et là on est réparti dans nos groupes pour faire les activités que les animateurs y proposent.
Et est-ce que tu sais ce que c'est comme activité?
Ils sont en train de décorer un arbre avec tout ce qui est naturel. On a fait du chant, après on a dansé, après on est allé avec notre animatrice. C'est trop cool, on fait des activités trop bien et... J'adore ce centre de loisirs.
Il y avait un jeu où on chantait, un jeu où on devait tenir un équilibre et un jeu où on devait faire confiance, les yeux bandés.
Est-ce que tu sais ce que tu vas faire demain comme activité?
Oui, on va aller à la plage et on va s'habiller et puis... On y va direct à la plage.
Un des propos recueillis ce matin par Marie Romain. Il est 11h48, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Et Tantine, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Bellevie, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Bellevie.
Optique Bellevie, toutes vos lunettes en 3 jours.
L'Infomag continue avec le village automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au village automobile au PK4 à Nouméa.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, Nicolas Maduro de retour dans sa prison de New York en attendant sa prochaine audience dans un peu plus de 2 mois. Le dictateur vénézuélien comparaissait pour la première fois devant un juge américain. C'était cette nuit pour nous. Retour sur cette audience avec Lara Legault d'Europe 1.
C'est une première audience qui a été brève, une trentaine de minutes seulement. Vêtu d'un uniforme carcéral, Nicolas Maduro apparaît confiant dès les premières minutes face au juge. Il l'affirme : je suis un homme respectable, je suis toujours le président de mon pays. Les quatre chefs d'accusations retenues contre le président déchu sont alors annoncées. Il est poursuivi pour complot de narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis et détention d'armes automatiques. Nicolas Maduro encourt une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Mais son avocat Barry Pollack commence à contester l'action en justice contre son client sur 2 points. Les conditions de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis et son immunité présidentielle. Le juge rappelle que ces points seront abordés lors des futures audiences. Prochain rendez-vous est fixé au 17 mars. Nicolas Maduro, lui, quitte la salle d'audience en déclarant « Je suis un prisonnier de guerre ».
Lara Legault du service international d'Europe 1. J'ajoute que dans les rues de Caracas, des milliers de partisans de Nicolas Maduro manifestent pour réclamer la libération du dictateur. Par ailleurs, la numéro 2 du régime, Delcy Rodriguez, a officiellement été désignée comme présidente par intérim du Venezuela. Cette arrestation de Nicolas Maduro constitue un succès incontestable pour le président américain Donald Trump. Trump est désormais, Donald Trump ne cache pas sa volonté de mettre au pas l'ensemble de l'Amérique latine. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Il multiplie ces derniers jours les menaces contre les pays de la région et contre leurs dirigeants comme la Colombie de Gustavo Petro que le président américain considère comme un autre narco-État.
La Colombie est malade, dirigée par un homme malade, qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Laissez-moi vous dire qu'il ne va pas faire ça pour très longtemps.
Donald Trump estime aussi que Cuba et son régime communiste sont prêts à tomber avec ces attaques. Il réaffirme tout simplement sa sphère d'influence directe, l'Amérique latine, remise au goût du jour de la doctrine Monroe, selon laquelle les Amériques sont la chasse gardée des États-Unis. Le président américain y a fait une référence directe ce week-end.
Wilfried de Villers d'Europe 1. Face à ce coup de force des États-Unis au Venezuela, les pays européens cherchent pour la plupart à plaider pour un strict respect du droit international, sans toutefois froisser Donald Trump, ni apparaître comme un soutien au régime de Caracas. Exercice d'équilibriste difficile, parfaitement illustré par les tergiversations d'Emmanuel Macron ces dernières heures. Arthur Delaborde.
Dans son message diffusé samedi, Emmanuel Macron ne dit pas un mot de la violation du droit international, rien non plus sur l'atteinte à la souveraineté du Venezuela par les États-Unis. Le président se projetant directement sur la transition à venir, pacifique et démocratique, réaction que Donald Trump a même republiée sur ses réseaux sociaux. Emmanuel Macron a donc profité du Conseil des ministres ce matin pour préciser sa pensée selon ses propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon.
Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée.
Face aux critiques de la gauche, l'Élysée renvoie aussi au message du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui lui parle d'une opération militaire contrevenant au droit international. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque un simple partage des rôles. Au ministre, la condamnation. Au président, l'étape d'après. Et aucune volonté, jurent ses proches, de ménager l'imprévisible Donald Trump. À la veille d'une importante réunion sur l'Ukraine à Paris, en présence des émissaires du président américain.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. En Suisse, tous les corps et tous les blessés sont désormais identifiés après le terrible incendie d'un bar à Crans-Montana. Le dernier bilan fait état de 40 morts et de 116 blessés. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour venir en aide aux familles des victimes françaises. Emmanuel Macron se rendra en Suisse vendredi pour assister à une cérémonie d'hommage. L'actualité en métropole, en bref, la coordination rurale promet de monter à la capitale dès jeudi pour porter les doléances des paysans. Déclaration du président du deuxième syndicat agricole après une réunion à Matignon. Volonté de prendre la direction de la capitale en dépit des arrêtés préfectoraux interdisant les convois de tracteurs pour empêcher tout déplacement massif d'agriculteurs. Des agriculteurs en colère, notamment contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. La ratification de ce traité controversé pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Et malgré ses efforts pour ralentir le calendrier, la France pourrait être prise de vitesse par la Commission européenne. Le budget omis du premier Conseil des ministres de l'année. Le gouvernement espère trouver un compromis d'ici la fin du mois. Bercy annonce la tenue d'une réunion avec les représentants des groupes parlementaires hors Rassemblement national et la France insoumise afin d'aborder les principaux points de blocage identifiés lors de la Commission mixte paritaire qui avait échoué le mois dernier sur le projet de loi de finances. Il est 11h et pratiquement 55 minutes. Une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ce mois-ci, You by Kotex s'engage aux côtés des femmes. Pour chaque paquet de serviettes hygiéniques achetées, 20 francs sont reversés à l'association Les Kimonos du Cœur. L'association agit sur le terrain pour informer, accompagner et aider les jeunes filles à aborder cette étape avec confiance. You by Kotex, force par nature, solidaire par choix. Plus d'informations sur le Facebook Sakebon NC.
Décompressez au Faramédé avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Voilà, bouge pas.
Oui. Hey, mais c'est qui sourit à chaque flash? Une vraie petite star.
Bah oui, c'est pour ça que je vais participer au casting Huggies et Géry 2026. On a jusqu'au 1er février pour envoyer sa candidature.
Ah, j'ai toujours su qu'on aurait une star dans la famille. Je vais direct sur le Facebook Sakebon NC pour voir comment participer.
Et si toi aussi tu inscrivais ton bébé pour être les Géry Huggies 2026.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Avec du tennis, c'est le coup d'envoi hier du BNC Tennis Open 2026. Dans le tableau principal en simple, première sensation hier avec l'élimination dès le premier tour de Pierre-Hugues Herbert, tête de série numéro 4. Il s'est incliné en 3-7 devant l'Australien Blake Ellis. Score final 7-5, 4-6 et 6-4. C'est passé en revanche pour Titouan Droguet, tête de série numéro 3, qui s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-2 sur le Belge Gauthier Onclin. Qualification également de Nan Aded, qui a éliminé Colin Sinclair, le joueur venu des Mariannes du Nord, le Français qui s'est imposé en 3-7, score final 6-3, 6-7 et 6-2.
C'était compliqué, conditions de jeu difficiles avec beaucoup de vent. C'est vraiment pas ma tasse de thé en plus, donc j'avais pourtant fait un premier set correct et je me suis mis tout seul dans le dur au début du deuxième. Après j'avais réussi à redresser la barre et au final je me suis un peu, j'ai perdu le deuxième un peu tout seul. Sur la fin du deuxième, j'ai raté énormément d'occasions et donc je me suis embarqué dans un long combat et au physique, au mental. Et voilà, j'ai vu très vite au troisième set qu'il était touché physiquement, donc j'en ai profité, mais c'était vraiment pas glorieux aujourd'hui. Mais bon, compte tenu des conditions, je m'y attendais aussi.
Les matchs ont repris à 11h sur les courts du Wentoro, Radio Rythme Bleu, au cœur de ce BNC Tennis Open 2026, avec chaque soir à 17h un rendez-vous en direct depuis les installations de la Ligue calédonienne de tennis. Le sport, c'est aussi du football. La suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce matin, l'Égypte de Mohamed Salah a eu toutes les peines du monde pour décrocher sa place en quart de finale face au Bénin. Les Égyptiens se sont finalement imposés 3-1 après prolongation. Dans l'autre match de la matinée, les Super Eagles du Nigeria sont imposés 4-0 sur le Mozambique. Et puis au chapitre sport mécanique, la suite du Dakar en Arabie Saoudite. On courait cette nuit à la deuxième étape du Rally Raid. En moto, c'est l'Australien Daniel Sanders qui s'est imposé au guidon de sa KTM. Il a devancé d'une minute 35 l'Espagnol Edgar Canet et d'une minute 46 l'Américain Ricky Babrek. Au classement général, Daniel Sanders reprend la tête du classement avec 30 secondes d'avance sur Edgar Canet et 2-18 d'avance sur Ricky Brabec. Dans la catégorie auto, la victoire d'étape pour l'Américain Seth Quintero sur Toyota. Il a devancé d'une minute 42 le Sud-Africain Henk Lategan et d'une minute 56 le Saoudien Yazed Al-Jarri. Au classement général, le Qatari Nasser Al-Attiyah est en tête. Il devance de 7 petites secondes l'Américain Quintero et d'une minute 09 le Belge Guillaume de Mevius. Sébastien Loeb est désormais 5e du général avec 1,57 de retard sur Al-Attiyah.